Merci Tiffaine, bon week-end. Aujourd'hui, illumination, clown et corps du poème avec Denis Lavant et André Guyot. Poème si souvent mis debout par le premier, poème tracé de la main de Rimbaud, ou presque, dont les manuscrits paraissent aux éditions des Saint-Pères, postfacés par le second.
La compagnie des poètes, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
Je vais mettre la radio. J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer. On tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Tu vas voir. C'est magique. Attention. Pas de chance. Donne-moi un chiffre, Anna. Au hasard. Vite, Anna, un chiffre. D'accord, 3. 1, 2, 3. Voilà. Écoutons et laissons-nous dicter nos sentiments.
Denis Lavant, André Guyot, bonjour, bienvenue à tous les deux. Quelques gouttes, j'allais dire, de mauvais sang. Hein. Mauvais sang comme le film de Carax en 86, hein, dont on vient d'entendre un bref extrait, et mauvais sang comme le poème de Rimbaud, issu d'une saison en enfer. Est-ce que c'est un lien que Carax vous avait expliqué, clarifié à l'époque, Denis Lavant, ou pas du tout?
Non.
Aucun lien avec Rimbaud?
On ne s'est rien expliqué, je n'ai pas posé de questions. Je me souviens que Juliette Binoche, qui jouait dans le film aussi, naturellement, elle avait, elle, recopié Mauvais sang d'une saison en enfer en essayant de mettre ça en écho. Moi, j'avais autre chose à penser, quoi. J'avais d'autres épreuves, mais il y avait quelque chose, forcément. Il y a toujours un écho poétique dans les films de Léos, et notamment avec... moi, je ressens un peu avec Rimbaud. Ce qui est curieux, c'est que l'introduction que vous avez fait, c'est un moment, c'est la nuit qui passe dans la boutique avec Anna, il met de la musique, et j'avais choisi particulièrement, avant la danse sur
parce
David Bowie...
Parce qu'on est
Bowie,
juste avant le travelling mythique où
et,
vous courez
et j'avais choisi
sur
de
David
mettre
Bowie.
Cette chanson qui est chantée par Reggiani, de Boris Vian, qui dit « J'ai pas de regrets ».
Alors comme ça tombe bien, André Guyot, oui. Professeur de littérature du 19e siècle à la Sorbonne, né à Charleroi, je crois.
C'est vrai, oui.
Et ça compte. Hein.
Oui, oui.
On vous doit de nombreuses études sur Rimbaud, à commencer par des travaux décisifs sur les illuminations, hein, ces splendides fragments, disait Verlaine, et à commencer par l'édition des œuvres complètes en Pléiade, à commencer encore par un essai titré « Duplicité de Rimbaud ». Alors évidemment, on n'aura pas le temps de développer tout ça, mais qu'est-ce que ce terme que vous appliquez, non pas au poète, j'imagine, mais au poème, hein, on pourrait paradoxalement élucider.
Oui, c'est duplicité au pluriel.
Oui, oui. À entendre comme ruse, j'imagine.
Oui, hein. C'est ça, voilà. Je me suis évertué à trouver des moments, qui sont des moments de lecture, des moments du texte, où il y a double sens, où il y a jeu sur les mots, où il y a piège tendu au lecteur pour qu'il comprenne sans comprendre, ou pour qu'il ne comprenne pas du tout, où il utilise l'énigme comme valeur poétique. Et j'appelle ça duplicité pour donner un terme un petit peu teinté péjorativement, mais c'est pas vrai évidemment, mais comme vous disiez, c'est synonyme de ruse, c'est ça.
Alors paraissent aujourd'hui, postfacés par vous, les manuscrits de Rimbaud aux éditions des Saint-Pères, soit les premiers et derniers poèmes en vers et en prose, hein, encadrant une saison en enfer, des extraits de l'album Zutik et les illuminations, bien sûr. Transcription, pour beaucoup, de la main de Rimbaud à la plume. Hein, on verra que cette graphie changeante a son importance. Rimbaud, je pense notamment aux illuminations que vous avez enregistrées pour les éditions Télème, Denis Lavant.
Il y a eu... La belle lurette.
Alors aujourd'hui, Point de Rimbaud, hein, c'est Henri Miller que vous portez seul en scène au Théâtre du Lucernaire jusqu'au 14 avril. Ça s'appelle Le sourire au pied de l'échelle, mise en scène par Bénédicte Necaille et adapté par Yvan Morane. Un texte, alors je crois qu'il dans un premier temps avait été commandé par Fernand Léger en 38, qui n'en a pas voulu. Et le texte a finalement été publié en 48. Hein, c'est un texte un petit peu à part, un peu étrange, une sorte de nouvelle, pas forcément très millérienne. Hein, l'errance d'Auguste, clown triomphant, qui voudrait troquer les rires du public contre, disons, une joie plus profonde, et pourquoi pas contre une vie. On écoute.
Le vrai Auguste, lui, personne ne le connaissait. Envahi par les souvenirs de milliers de nuits semblables face au miroir, je compris que cette vie à part, cette existence secrète qui était censée sauvegarder mon identité, n'était absolument pas une vie. N'était en fait zéro. Pas même l'ombre d'une vie. Je n'avais commencé à vivre que du jour où je m'étais joint à cette troupe. Et cette vie secrète s'était évaporée.
Vous n'aimez pas vous entendre, Tony
Levent ? Ça fait toujours un peu bizarre. Je voudrais reprendre tout, quoi. Comme si c'était un tableau où il y aurait trop de... J'ai forcément une oreille critique par rapport à ce que j'aimais. Mais de s'entendre, on a envie de reprendre le matériau comme un tableau, de reprendre, d'affiner le trait, de dégrossir, quoi.
Qu'est-ce que vous auriez repris, là ?
Tout. Tout, je me surprends des intonations, de dire, ah ouais, des trucs, d'accord. Mais aussi, il faut dire que c'est dans une dimension de théâtre. Donc il y a cette proclamation, un peu cette petite profération, mais ouais... C'est-à-dire, je me fais l'effet d'un vieux peintre où il y a beaucoup de pâtes.
Ce qu'on a entendu là, c'est donc un bref extrait du Sourire au pied de l'échelle, hein, au Théâtre du Lucernaire à Paris. Donc sur scène, une échelle infinie, hein, une piste circulaire au contour mobile, quelques accessoires, dont de nombreux petits instruments de musique à vent, à souffle, hein, une sorte de petite loge escamotable, hein, devant laquelle vous vous trouvez d'ailleurs pendant l'extrait. Qu'est-ce que c'est ?
C'est un instrument de musique.
J'ai pas eu le temps de le voir.
C'est un sifflet à nez. Vous voyez comme ça ? Sympathique.
Sympathique. Je croyais que vous aviez des escargots pour souffler dedans.
J'ai des escargots aussi.
Ah bah oui.
J'ai d'art source, oui. Ça, c'est...
Alors, pardon, évidemment, pour les auditeurs qui ne voient pas, ce sont des coquilles d'escargots vides.
Oui,
dans lesquelles vous soufflez, absolument. Oui. J'en reviens au clown, qui n'était pas bien loin, par ailleurs. Qu'est-ce qui lirait cette figure-là à Miller ? Parce que c'est vrai que ce texte-là, à première écoute ou à première lecture, n'est pas forcément un texte qu'on imagine être un texte de Miller.
J'ai abordé vraiment Miller par ce texte-là, qu'on m'a remis en 87. Et juste avant le départ de la plongée dans le tournage des Amants du Pont-Neuf, qui m'a coûté 3 ans de ma vie quand même, et d'incarcération dans cette galère, mais bon, je ne regrette pas. Et c'est un jeune auteur, Pierre Esco, qui m'avait remis ce texte et qui a été lumineux pour moi à ce moment-là. Et j'ai pas lu grand chose d'autre de Miller. J'ai flirté, j'ai écouté un peu ses dialogues avec son échange avec Anaïs Nin. Et je connais mal cette personnalité. Si je connais par le biais d'un poète de Montpellier qui s'appelle Frédéric Jacques Temple, qui a eu une amitié, une correspondance avec lui, mais j'ai pas tellement lu la moelle de ce qui est connu de lui. C'est un texte qui évoque complètement sa posture d'écrivain. D'artiste, et c'est-à-dire il se compare lui-même à un clown, à cette fonction-là et on sent qu'il parle énormément de lui. C'est un écrit très intime, la manière de pourquoi se sacrifier pour les autres, pourquoi sortir de soi-même, se dépersonnaliser pour vivre une expérience d'écrivain. Et pourquoi pas être simplement humble dans un anonymat ? Il y a toute cette dualité.
Est-ce que ça veut dire que pour
en l'occurrence du personnage ?
Est-ce que ça veut dire que pour Miller comme pour vous peut-être Denis Levent, le clown serait forcément une figure sacrificielle ?
Oui, absolument. Il le décrit très bien. On sent qu'il a vu Medrano, qu'il a vu les grands clowns de l'époque, les Fratellini, par exemple. Il décrit très bien ce phénomène parce que, et j'aurais cité encore une fois un ami qui m'est cher, qui est Bonaventure Gacon, qui fait un clown extraordinaire, contemporain, par le boudu, et qui dit, ouais, le clown, à la différence des comiques qui font du stand-up, qui sont dans une sorte de harcèlement de l'autre, une discrimination de l'autre, qui font rire aux dépens d'un autre qu'on met en ridicule, le clown, c'est lui qui prend la charge. C'est lui qui se met face à la risée du public. Et c'est ça qui est formidable, en ayant la grande conscience de ça. En fait, qui endosse toutes les défauts, les folies, les stupidités, comme il l'écrit d'ailleurs dans le texte. Il a très très bien cerné le problème. Et l'écrivain est aussi une figure, ou le poète, comme Rimbaud, qui endosse ça, quelque chose, l'expérience limite de l'humain.
Le clown, c'est le poète en action, hein, c'est ce que dit Henri Miller. Il est l'histoire qu'il joue, le clown exerce sur moi, dit Miller, un profond attrait. Bien que je ne m'en sois pas toujours douté, justement parce qu'entre le monde et lui se dresse le rire, son rire à lui n'a jamais rien d'homérique, c'est un rire silencieux, sans gaieté, comme on dit. Le clown nous apprend à rire de nous-mêmes, et ce rire-là est enfanté par les larmes. Sans conteste, c'est l'histoire la plus étrange que j'ai écrite à ce jour. André Guyot, le clown occupe les poètes qui vous occupent. En tout cas, parfois, certains d'entre eux, je pense en particulier à Baudelaire, je pense à son fameux texte « L'essence du rire » hein, en 1955, dans lequel il va distinguer ou hiérarchiser, en tout cas, la question du comique et du burlesque. Qu'est-ce que le recours au clown peut permettre à Baudelaire, par exemple ?
Baudelaire a l'habitude de déplacer son identité vers d'autres identités, de se mettre dans le corps d'un oiseau. L'albatros, c'est le poète. Le cygne, c'est le poète. Et le clown, d'une certaine manière, c'est le poète aussi, oui. Il y a un poème de Spline de Paris qui s'appelle « Une mort héroïque », qui est un bouffon, c'est une figure assez proche hein, du clown. Je crois que le clown, c'est le poète. Hein. Il y a d'ailleurs un poème de Rimbaud qui s'appelle « Le cœur du pitre ».
Oui. Puis il y a le pitre châtié de Mallarmé aussi.
Il y a le pitre châtié de Mallarmé, je crois que c'est quelque chose de très fort. Pourquoi ? Parce qu'il y a le rire, parce qu'il y a le malheur, parce qu'il y a la souffrance, parce qu'il y a le regard cruel des autres sur... le poète comme sur le clown. Je crois que c'est ça. Le clown fait rire, mais qu'est-ce que c'est que cette sorte de rire-là ? En tout cas, quand les poètes s'investissent dans le clown, on ne rit plus tellement, je crois.
Alors, c'est celui précisément dont ne veut plus le personnage qu'incarne Denis Lavant sur la scène du théâtre du Lucernaire. On en écoute un autre.
Un jour, bientôt peut-être. Un jour, j'arracherai l'ancre qui tient mon navire loin des mers. Avec la sorte de courage qu'il faut pour être rien, et rien que rien. Je lâcherai ce qui paraissait m'être indissolublement proche. Je le trancherai, je le renverserai, je le romprai, je le ferai dégringoler. D'un coup dégorgeant ma misérable pudeur, mes misérables combinaisons et enchaînements de fil en aiguille, vide de l'abcès d'être quelqu'un, je boirai à nouveau l'espace nourricier. À coup de ridicule, de déchéance, qu'est-ce que la déchéance ? Par éclatement, par vide, par une totale dissipation, dérision, purgation, j'expulserai de moi la forme qu'on croyait si bien attachée, composée, coordonnée, assortie à mon entourage et à mes semblables, si dignes mes semblables. Réduit à une humilité de catastrophe, à un nivellement parfait comme après une immense trouille, ramené en dessous de toute mesure à mon rang réel, au rang infime que je ne sais quelle idée et ambition m'avait fait déserter, anéanti quant à la hauteur, quant à l'estime, perdu en un endroit lointain ou même pas, sans nom, sans identité. Clown, abattant dans la risée, dans l'esclaffement, dans le grotesque, le sens que toute lumière je m'étais fait de mon importance, je plongerai. Sans bourse, dans l'infinite esprit, sous-jacent, ouvert à tous, ouvert moi-même à une nouvelle et incroyable rosée, à force d'être nul, errat et risible.
Clown d'Henri Michaux, issu de peinture en 39, et Denis Lavant doublait la lecture qu'en faisait Juliette Binoche.
Pas tout, mais je connais bien. Mais c'est un texte que je connais depuis longtemps, que j'aime
un
beaucoup.
Un poème de Michaux, bien sûr.
Fait plaisir de l'entendre par Juliette.
que vous n'avez pas immédiatement reconnu.
Non, je suis désolé. Ouais.
Alors, le clown qui serait pour Michaud quelque chose, au fond, hein, comme le contraire de l'écrivain, je me demandais aussi par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure et sur cette question de l'existence secrète ou de la vie secrète, évidemment, on ne peut pas faire autrement que de penser également à la position de l'acteur.
Oui.
Est-ce que le clown serait un comédien ou justement pas ?
Justement, la différence pour moi qu'il y a avec le comédien, et comme le décrit Auguste, à partir du moment où il cesse, on le voit d'ailleurs dans les photos des Fratellini, quand ils sont maquillés, quand ils sont en civil, c'est plus le même visage. Donc un clown qui a ôté son masque de clown, il est totalement anonyme. Et donc c'est vraiment, il y a vraiment un dédoublement réel de la personnalité. Peut-être autant que pourrait l'être, mais pas autant qu'un écrivain. Parce qu'un écrivain, devient de plus en plus un personnage public, dont on connaît le visage. Peut-être moins à l'époque de Rimbaud. Les poètes sont peut-être plus anonymes dans la vie de tous les jours. Mais le clown est vraiment le type qu'on ne reconnaît pas et qui existe pleinement sur la piste. C'est-à-dire dans la vie, on lui fout la paix. C'est-à-dire, effectivement, un acteur, on
vous
reconnaît.
Fout pas la paix à vous,
surtout dans la dès qu'on a fait un peu de cinéma ou un peu de télé, on vous reconnaît tous les jours ou tous les trois jours, quoi.
Alors,
dans le métro.
Alors, il y en a qui disent exactement l'inverse.
Ah bon ?
De ce que vous venez de nous dire.
D'accord.
On écoute.
Un clown doit surtout observer. Il faut avoir un don d'observation et beaucoup observer, car tout ce que je fais, moi, je le tire de la rue. Tous les personnages, tous les sketchs, tout ce que j'ai fait, je pars sur une idée, je dis, tiens, j'ai vu un gars passer l'autre jour, j'ai dit, voilà le genre de type qu'il faut que je fasse dans ce sketch-là, vous voyez ? Ou un idiot, un type un peu idiot, je dis, hop, là, je l'accentue, naturellement. J'avais des gars qui ont des gros nez comme moi, mais j'en trouve dans la rue, j'en trouve plein, moi, des gars qui n'ont même pas besoin de aussi gros que le mien, et qui ont même la démarche que j'ai, moi, je l'ai prise, vous allez sous les ponts, vous allez voir, dans les clochards, vous trouvez plein de avatars là-dedans. Mon corps prend une autre forme, ma démarche, ma voix, mes yeux, tout se met à jouer, les mains, les gestes, tout, absolument. Je ne sais pas, moi je m'en aperçois pas, parce que c'est un phénomène qui se produit au moment où je passe le rideau.
Est-ce que vous croyez que c'est dû au costume ?
Non, il m'est arrivé de jouer en civil, alors. Il m'est arrivé un jour, j'étais en retard et j'ai joué comme ça.
Sans maquillage ?
Sans maquillage, sans rien, et... des gens du cirque m'ont dit, écoute, on ne s'est même pas aperçu que tu n'étais pas maquillé. Tu es redevenu le même que lorsque tu es maquillé.
Bon, j'imagine que, alors, il y en a évidemment plein d'autres. Je pense à Pierre Etex, par exemple, qui lui dit exactement l'inverse, pour qui le maquillage, même la préparation, faisait déjà partie du spectacle. Donc là, ce qu'on entendait, c'était,
oui.
C'était Zavatta en 73, hein, au micro de Philippe Roy, c'était sur France Inter. Mais pour vous, Denis Lavant, se faire une tête de clown, hein, ce serait d'abord en finir avec son propre visage ?
Oui, ou c'est le styliser complètement, ou l'effacer. Comme, encore une fois, c'est pas moi qui parle, c'est Auguste avec les mots d'Henri Miller qui dit, il contemple son visage dans le miroir chaque soir, et puis il se met à l'effacer sous un autre, sous le visage d'Auguste que tout le monde connaît, parce que lui, Auguste, personne ne le connaît, c'est ça. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, effectivement, c'est la démarche de Zavatta, c'est de dire, ouais. L'être clown, son clown, ou la composition qu'on va faire, on la glane dans le quotidien, avec les gens, c'est de l'humain. C'est de l'humain qu'on observe et qu'on métabolise, en fait. Et le clown est remarquable dans le sens que c'est aussi un gymnaste de cirque et un musicien. Si je prends un clown, quoi, moi, un clown
et
que
un
j'admire...
Et un dompteur, parfois. Et, enfin,
et
oui,
un dompteur, oui. De plus, ou un dompteur. Mais en tout cas, il connaît...
Toutes les
ficelles. Il est comme les Fratellini. Ils ont été absolument formés aux arts du cirque. Comme Grock, par exemple, qui peut faire un saut périlleux comme ça.
Un clown suisse.
Au débotté, qui peut jouer du violon, qui est d'une agilité extraordinaire, qui est un jongleur, musicien, acrobate. Et donc il y a ça. Il est quand même dans une sorte de performance hors du commun.
Alors justement, c'est aussi une figure venue de l'enfance, hein, vous l'avez beaucoup dit, la figure du clown, c'est une figure qui vous occupe depuis très longtemps,
ouais.
Qui vous préoccupe, une sorte de figure idéale. Hein. Quel clown est-ce que vous avez voulu être ?
Moi forcément c'est l'Auguste, il n'y a pas photo quoi.
Pourquoi forcément ?
Parce que c'est, mais peut-être je me trompe, hein. Justement ce qui est étonnant dans la trajectoire qu'a... que m'a tracé Bénédicte Nécaille, qui est mon metteur en scène dans la pièce, c'est de commencer en Auguste, qui quitte le cirque, qui va à un moment donné endosser la personnalité d'un autre Auguste, et qui va finir en clown blanc. Effectivement, moi, je n'ai jamais pensé au clown blanc. Mais peut-être je me trompe. Peut-être que... Et puis, bon, c'est... Parce qu'il y a ces deux entités, forcément. Les couples de clowns, d'Auguste et de clown blanc, ils existent. On les trouve dans le théâtre. On les trouve dans Godot, par exemple. Entre Vladimir et Stragon, il y a forcément le clown blanc et l'Auguste. Et moi, si je vois une manifestation d'Auguste dans une pièce, je vais forcément, spontanément, instinctivement, aller vers ça. Parce que c'est là que je sens que j'ai une dynamique évidente de l'Auguste, de faire des trucs de travers, d'avoir besoin d'un faire-valoir pour faire l'inverse, pour louper, pour me faire remarquer de travers, en fait. C'est ça, d'être dans l'excentricité. Alors que le clown blanc est plus dans la rigueur. Et c'est une figure que j'ai pas étudiée, du reste, que je trouve très étrange, inquiétante même. Qui est nourri aussi du Pierrot, qui retentit chez La Forgue, par exemple. Parce que c'est encore une autre figure. Ou dans Les Enfants du Paradis, avec Jean-Louis Barrault dans le rôle de Baptiste.
Qu'est-ce que c'est, Denis Lavant, qu'un enfant qui veut être clown, hein? Enfin, ou dit autrement, à quoi ressemble un enfant qui veut être clown?
Il s'exerce à faire toutes les dépitreries, quoi. À chuter, à marcher sur les mains, à jongler, à faire de l'équilibre. Et il y a encore une figure pour moi qui m'est chère, parce que elle est encore dans ce registre-là du clown et de l'Auguste, c'est Charlie Chaplin, surtout dans ses courts-métrages. Quand il est complètement dans une dynamique de théâtre de rue et de cirque qui fait des excentricités dans des lieux publics, dans des manifestations comme Charlot aux courses, où il y a des gens qui ne sont pas des figurants. C'est comme ça qu'ils tournaient à l'époque les courts-métrages. Ils utilisaient un événement de masse et ils venaient filmer une incrustation d'une fantaisie burlesque à l'intérieur de ça, donc en profitant de la foule. Et je trouve que l'attitude de Charlot dans ce contexte-là, pour moi, ça m'a toujours épaté. Presque ce que je me suis empressé de faire au tout début, avant même de penser être comédien, c'est de me comporter comme tel dans la rue, au quotidien. En fait, dans un comportement, effectivement, de funambule, un comportement poétique, comme ça, d'être dans cette légère excentricité qui décolle de la grisaille quotidienne et qui fait qu'on est dans une attitude un peu remarquable, et remarqué forcément, et qu'on peut susciter cet éclat aussi, ce petit pétillement d'enfant, ce sourire chez les gens qu'on croise.
Mais remarquable, Denis Lavant, d'abord par le corps, hein, parce que alors évidemment, ah oui, des clowns qui prennent la parole, il y en a aussi, il y en a eu beaucoup, mais il y a quand même une longue tradition de mutisme chez le clown, hein, et c'est quelque chose qui... Si j'ai bien compris, vous avez aussi traversé pendant votre enfance.
Ah oui. Oui, oui.
Est-ce qu'on peut y voir un lien entre ce choix de la figure du clown et justement ce rapport au verbe et au corps?
Le verbe, c'est toujours embêtant, quoi. C'est toujours préoccupant. Ce que je vous disais tout à l'heure, en m'écoutant jouer au théâtre, je me dis, oh là là, c'est comment que ça sort? C'est une chose, c'est irrémédiable. Le verbe, ça vous sort de la bouche, que ça soit le texte d'un autre ou son propre texte, et on peut pas le rattraper. On peut pas le modeler, le faire exprimer autre chose, le nuancer. Une fois que c'est fait et c'est répandu dans l'espace. Alors que le geste, c'est génial, parce que on peut sans fin le sculpter, le nuancer et en être soi-même spectateur. Et c'est vrai que j'étais plutôt doué pour bouger. J'aurais pu faire danseur. Moi, j'ai choisi de faire comédien parce que je voulais comprendre ça aussi.
Bah, vous dansez souvent, vous avez commencé par danser. On vous a fait danser dans des films.
J'ai commencé par
me
mouvoir, de toute façon, et sur scène. Par chuter. J'aime toujours beaucoup tomber. C'est un pur plaisir.
Vous chutez, là, d'ailleurs, au théâtre du Lucerne.
Je chute un peu, ouais, je chute d'une valise. Ouais. Et puis, j'ai commencé par le mime, qui était à la manière de Marcel Marceau, de raconter des histoires sans avoir besoin du langage. Et donc, c'était forcément des choses que je créais de moi-même. Des petites pantomimes.
Vous parliez du verbe et du corps, peut-être qui pourrait faire une sorte de jonction entre les dieux, les deux, en tout cas le lieu de la jonction entre les dieux aussi. Une sorte de jonction entre les deux, ça serait la voix. Et à propos de voix, vous avez demandé à en entendre plusieurs. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de toutes les entendre, Denis Lavant, mais des voix qui sont presque musique, donc on peut peut-être en écouter deux.
Jeanne et la République étaient toutes de la France. Parce qu'elles étaient toutes deux l'incarnation de l'éternel appel à la justice. Le monde reconnaît la France lorsqu'elle redevient pour tous les hommes une figure secourable. Et c'est pourquoi dans les pires épreuves, il ne perd jamais confiance en elle. Ô Jeanne sans sépulcre, toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants, regarde cette ville fidèle, Jeanne sans portrait, peu importe tes 20 000 statues, sans compter celles des églises, à tout ce pourquoi la France fut aimée.
Alors on va entendre une autre aussi. Alors moi c'est vraiment l'émission de toutes mes terreurs d'enfance. La voix de Malraux et les clowns, c'est tout est là. Alors il y a une autre voix encore, on l'écoute.
J'ai appris hier. Pour croire que je retarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit? L'un de ces sales ragots, comme ils sont colporte entre évier et latrine, à l'heure de la mise au baquet des repas, une fois de plus ingurgité. J'ai appris hier. L'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines. Et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui entre pour la première fois dans une école publique, aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminaire ou du sperme.
On a envie de l'entendre encore un petit peu plus. Sans transition donc, les voix d'André Malraux à la fête de Jeanne d'Arc à Orléans le 8 mai 61 et un extrait bien sûr.
Ah, 61 de... Oui. Ouais, c'est drôle.
Pour en finir avec Pour en finir avec le jugement de Dieu, donc la pièce radiophonique enregistrée notamment par Antonin Artaud en novembre.
Au Vieux-Colombier.
47.
Oui, oui, ça fait contraste.
Oui, ah oui, ça fait contraste, mais ce sont deux voix d'excès, en tout cas. Qui sont, alors, je ne sais pas si c'est les raisons pour lesquelles vous avez voulu les entendre l'une et l'autre. Qu'est-ce qu'elles vous disent, hein, ces deux voix?
Elles continuent à me faire frissonner. Elles m'émeuvent beaucoup. Et pour moi, c'est une possibilité. C'est-à-dire, pour passer du geste à la parole, j'ai eu besoin d'exemples. J'ai besoin d'entendre des voix qui me disaient « Ah ouais, on peut parler comme ça ». Et Malraux, quand je l'ai écouté, la première fois j'ai écouté pour le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, et je trouvais ça incroyable, cette voix de tribun, cette période à l'ancienne, qui est plus du tout usitée. Bon, c'est vous qui avez choisi ce passage-là. Ben, je pensais au début du discours par Jeanne d'Arc, parce que ça serait génial des périodiques, mais ceci est très beau, ou la fin du discours au plateau des Glières, et des manières de partir dans un lyrisme un peu des fois tout sautant ou crachotant dans le vent, et de terminer, de clore les choses par une chose absolument, une connotation absolument triviale et sèche, et qui rive le clou au discours, et je trouve ça formidable. Et c'est fascinant, c'est hypnotisant pour les oreilles et pour la psyché, quoi, d'entendre ce discours de Malraux. On est porté, et à tel point que il y avait une période, je l'imitais, quoi, je l'écoutais en boucle, et je disais, et alors, dans tous les bagnes, depuis la forêt noire jusqu'au cimetière de Mersin, etc. Et je me rengorgeais avec, je me chauffais avec du Malraux, quoi. Et de même, à l'opposé, quoi, dans une autre dimension, et qui est aussi absolument contrôlée, et qui est génial, et qui retentit formidablement. Et en plus, le propos est, d'une lucidité, d'une acuité phénoménale, c'est Artaud. Et c'est Artaud qui est inimitable. Lui, parce que il a une maîtrise de la folie du verbe et de la, et des différents supports de profération, que ça soit une voix absolument incarnée de comédien classique, ou une voix, comme ça, perchée de bouffon, ou une voix de troll, quoi. Il passe par toutes les, par tout le spectre vocal que j'ai plus en ce moment, parce que je suis un peu éraillé, n'est-ce pas?
Attends, vous changez beaucoup de voix sur scène,
mais, mais là, bon, là, je suis un peu en rodage. En ce moment, mais voilà, et ça, pour moi, ça me dynamise. Ces voix, ça me porte.
Alors, ce sont les voix qui vous portent, et c'est aussi beaucoup la poésie, hein, on le sait. Certes. Vous l'avez beaucoup dit, vous l'avez beaucoup lu, vous la lisez beaucoup, vous la dites, vous la lisez, ce qui sont des choses, j'imagine, relativement différentes. Et ça veut dire que lorsque vous lisez de la poésie, vous la lisez à voix haute, hein. Ça veut dire que oui. Forcément.
Bah, autant que possible. De toute façon, j'ai tendance, dès que je travaille sur un texte, je le lis à voix haute. Que ce soit un texte en prose. Là, j'ai enregistré récemment L'automne à Pékin de Boris Vian. Et forcément, je travaille à voix mi-basse. Je travaille pour moi. Mais la poésie, et c'est un texte éminemment poétique, naturellement. Mais, et c'est comme ça qu'on saisit la poésie. C'est-à-dire, si on la lit juste dans sa tête, il manque une dimension. La poésie, elle est faite pour retentir, et on en comprend les nuances, les jeux de mots, les assonances, parce que c'est fait énormément de ça. Dans toute poésie, il y a du camouflage, il y a de la duplicité de la part de l'auteur, parce que justement, la poésie, elle ne se livre pas immédiatement. Il y a du sens qui affleure, qui est des fois en stratifié de façon incroyable, et donc ça mérite de le dire, et c'est en affirmant les mots du poète qu'on en perçoit le sens aussi, en s'en convainquant par sa propre parole.
Au-delà de ce que vous en faites parfois sur scène ou en enregistrant, Denis Lavant, est-ce que la fréquentation des poètes, de la poésie, est-ce que c'est quelque chose qui vous a été, au fond, nécessaire pour jouer? Est-ce que l'acteur que vous êtes est en dette avec le lecteur de poésie?
En dette, oui. Non, mais moi, c'est plutôt en dette de vie. Ça m'est absolument nécessaire pour vivre, la poésie. Ça existe avant que je sois comédien. C'est-à-dire, j'ai appris des poèmes pour le plaisir d'avoir quelque chose de beau en moi à dire ou à me dire, des mots choisis et pour moi qui retentissaient souvent de façon un peu macabre. Parce que c'est vrai que les premiers poèmes sur lesquels je me suis penché, c'est ceux où il y avait du macabre. Comme la complainte des frères humains qui après nous vivaient de Villon, la balade des pendus. Et de même, ce qui fait pendant chez Rimbaud, c'est le bal des pendus. Au gibet noir, manchot aimable, danse, les paladins du diable, etc. Les squelettes de Saint-Latin. Et toute cette chose-là qui était exprimée, qui n'était pas de la poésie d'amour, qui était de la poésie où il y avait de la mort, quelque chose de la danse des squelettes, quoi, cette chose-là qui est, qu'on retrouve pas forcément au quotidien, qui me fascinait et qui s'exprimait complètement là, peut-être qui déjouait ma propre peur ou mes angoisses. Et donc j'ai cultivé ça pour le plaisir, sans me rendre compte que c'était quand même une parole primordiale. Alors que j'ai négligé pendant très longtemps le roman, je trouvais qu'il y avait trop de mots. Il y avait trop de mots, il y avait trop de pages, il y avait trop, les pages étaient trop pleines de mots, c'était un peu rebutant. Alors que là, ce qu'il y avait de bien dans la poésie, c'était de l'image. Et de l'image qui était aérée, qui volait sur la feuille, il y avait du blanc autour, et il y avait des mots choisis, déposés, et qui sont une sorte de cinéma. C'est-à-dire qui sont de la pensée absolument mise en image. Témoin, encore une fois, le Dormeur du Val. Si on regarde Le Dormeur du Val de Rimbaud, on voit des plans de cinéma. C'est-à-dire un travelling vers quelque chose qui se rapproche, une vallée, et puis un corps qu'on distingue, et jusqu'à aller jusqu'au gros plan où on voit qu'il a deux trous rouges au côté droit. Mais il y a vraiment cette magie cinématographique du poème.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farid.
Quand vous lisez, alors je ne sais pas trop comment dire ça, parce que comme vous y avez plusieurs exercices, c'est-à-dire effectivement vous avez enregistré des poèmes, ce qui est donc de la lecture, Vous avez dit des poèmes sur scène.
Oui.
De quoi est-ce qu'on parle dans ces cas-là ? Est-ce qu'il s'agit de dire, de lire, d'interpréter, d'incarner ? Est-ce qu'on est acteur quand on lit ?
Ben, c'est libre, justement.
Alors, sur toutes
les formes que j'ai faites, ce que je préfère le moins, c'est l'enregistrement. Parce que dès que c'est fixé, c'est encombrant. Parce que ça, ce n'est jamais fini, le rapport à un poème. Comme un poème, c'est à un moment donné un instantané d'une pensée qui est saisie au vol. Et dès qu'on l'enregistre, on dit, ah non, on pourrait mieux. C'est pas, le mieux, c'est de rester dans l'éphémère. C'est de le dire en public. Moi, pour moi, on dit un poème, on profère un poème, mais on l'incarne aussi. Parce que pour moi, la seule manière que j'ai d'aborder en conscience un poème, c'est de me mettre absolument à la place du poète. C'est-à-dire d'être dans la vision et donc d'incarner ce qu'il voit. Et d'être dans ce champ de vision-là, et ça m'aide... si vous voulez, avec des poèmes abstraits, très abstraits ou réputés hermétiques comme ceux de Mallarmé, d'être dans le geste du poème, c'est-à-dire de danser le poème, de me laisser aller instinctivement à ce que me suggère l'image. Et ça m'a permis plus d'une fois effectivement de prendre pied dans de la poésie et de pouvoir moi la comprendre, quoi. En tout cas, en avoir une sensation assez intense, assez riche, et donc de pouvoir la transmettre.
Ça passe par la voix aussi, Denis Lavant, parce que j'imagine que ça n'est pas la même voix, et là je dis ça presque au sens du timbre,
ouais,
qui va dire Coleridge, ou Rimbaud, ou Wilde, ou Char, ou Trakl.
Je ne sais pas. Ça, je prémédite pas avec quelle voix ça va sortir. C'est un peu en l'état, quoi. Mais en tout cas, il y a la personnalité du poète, du moins, qui est déposé dans l'écrit. Et donc forcément, la syntaxe, c'est pas tellement la voix, c'est la respiration qui va impliquer la manière de dire, la diction d'un poème. Et il y a toute la personnalité, pour moi, chez tout grand poète, qui est déposée dans l'écriture. Donc effectivement, le flux de Rimbaud du bateau ivre, il va pas être la même chose que le puzzle pittoresque que fait René Char, ou même que les vers de Verlaine. Même si à un moment donné, il y a de la poésie classique, ou que, effectivement, il y a une forme qui est commune dans la poésie classique, mais elle n'est pas la même chose. C'est-à-dire, Victor Hugo, il n'a pas du tout la même personnalité poétique que Rimbaud. Même si au départ, Rimbaud, il est un peu emprunt de Victor Hugo, dans ses poèmes d'enfance, dans Soleil et Cher, par exemple.
Oui.
Voilà. Mais après, il se définit ailleurs. Voilà, donc c'est de se rendre disponible à se faire envahir par une personnalité poétique.
Cycle de mélodies composé en 1939 par Britten à partir des illuminations de Rimbaud sous la direction de Neville Marriner, interprété ici par la soprano Heather Harper et paru sous le label EMI. Alors on parlait de voix tout à l'heure, André Guyot, ce cycle-là hein, qui met les illuminations en musique, et cycle pour voix disons aiguë, ténor ou soprano, est-ce que c'est la hauteur qui pour vous convient à ces illuminations que vous avez souhaité faire entendre d'ailleurs Britten hein, c'est votre choix à vous.
Pourquoi pas ? Mais je dirais que n'importe...
Ça dépend de ce que vous y entendez.
N'importe quelle voix convient. On pourrait imaginer une basse. On pourrait imaginer... Là, les textes sont clamés, presque hurler par une voix de haute tessiture, et c'est magnifique. Mais je peux l'imaginer murmurer, ça ne me gênerait pas. Je veux dire, le choix de la voix, c'est comme un choix de lecture. Il est une permission du texte. Il n'y a pas d'obligation de telle ou telle méthode de chant, je n'ai pas l'impression. Non.
Vous le lisez comment, Rimbaud, d'ailleurs? Et je ne sais pas d'ailleurs si vous pouvez encore le lire. Je ne sais pas maintenant à quoi ressemble une lecture de Rimbaud par quelqu'un qui l'a trouvé, fréquenté, fréquenté de telle manière particulière, quand même.
Je le lis à voix basse, moi, plutôt. Oui, oui, oui. Je le lis en pensée. Mais c'est une voix intérieure aussi, c'est une autre forme de la voix. Hein, c'est une expression aussi intériorisée.
Alors, illumination, hein, donc c'est ce qu'on entendait, avec ou sans article, hein, telle est la question. Un point toujours plus ou moins discuté, en tout cas vous, vous avez tranché depuis longtemps, voire gravé dans le marbre hein, de la Pléiade, hein, ce sera donc sans article.
Oui, parce que c'est un mot anglais. Hein.
Je l'ai mal dit.
Non, je pense qu'il faut un mot anglais francisé, comme il y en a d'autres. Dans la langue, c'est-à-dire complètement incorporé à une autre langue, la nôtre. Bon. Mais l'origine, l'étymologie, le sens, il est anglais. J'ose pas le prononcer, Illuminations. Voilà. Yes. Comme il est transmis par Verlaine, ce titre, c'est Verlaine qui est le go-between, si j'ose utiliser un autre mot anglais. Il indique que c'est anglais et il donne le sous-titre anglais, Painted Plates. Et en anglais, ça signifie gravure, enluminure, et pas illumination dans le sens immédiat. Mais en fait, c'est la duplicité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, il n'empêche que le sens lumineux, plein d'éclairs et de lumière du français normal, se maintient malgré la revendication d'une étymologie et d'un sens anglais. Et donc, en anglais, il n'y a pas de raison qu'il y ait un titre. Hein. Voilà, il ne me semble pas.
Un article, pardon.
Bon,
pourquoi pas.
Pardon.
Alors, c'est par illumination que vous entrez, du moins d'un point de vue académique et universitaire, dans l'œuvre de Rimbaud, ce qui donnera lieu à une thèse, André Guyot, sous la direction d'Étiamble, si je ne me trompe pas, un essai en 85. Et aujourd'hui encore, c'est aux illuminations que vous consacrez le texte qui accompagne les manuscrits de Rimbaud publiés par les éditions des Saint-Pères. D'où vous vient cette obstination à examiner ce corpus-là? Est-ce que c'est celui qui demandait encore le plus d'éclaircissement, sans mauvais jeu de mots?
Écoutez, pour tout vous dire, c'est une circonstance. C'est-à-dire, le premier projet était de publier seulement les illuminations, le fac-similé des illuminations. Et puis, on a gonflé le volume, et mon texte était fait pour les illuminations. Il s'est donc déplacé de la préface, peut-être prévue, vers une postface. Mais de toute façon, c'est bien comme ça, si vous voulez, parce que c'est les illuminations qui posent le plus de problèmes du type de manuscrit. C'est là qu'il y a l'intervention de Germain Nouveau, hein, de ses amis, dans la copie de poèmes. C'est le moment du dernier investissement, du dernier projet de Rimbaud, donc en 74, au printemps 74, très probablement. Et puis, il laisse tout faire, il ne s'en occupe plus. Et donc, il transmet à Germain Nouveau, à Verlaine, puis les manuscrits sont égarés, puis ils sont retrouvés, puis on les publie 12 ans plus tard, en 86. Donc oui, il y a un petit décalage là qui est intéressant à observer.
Alors, ce livre, hein, donc, c'est une édition format beau, très beau livre, hein, mais relativement décontextualisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notes, pas d'appareillage critique, pas de date en dehors de celle écrite de la main de Rimbaud ou de celui qui copie le manuscrit ou la transcription. À quoi est-ce qu'on a affaire exactement dans ce livre-là? À des transcriptions, à des brouillons, à des copies? Est-ce qu'elles sont toutes de la main de Rimbaud? Alors, en vous posant la question, je sais qu'il y a Verlaine qui s'y promène. Au fond, de quoi est fait ce corpus de reproduction?
C'est en effet très mélangé. Il y a néanmoins une ligne qui est la chronologie, ou la chronologie supposée dans certains cas. Donc on va des premiers manuscrits connus de Rimbaud, de poèmes ou de textes de fiction de Rimbaud, même issus de l'école, jusqu'aux illuminations. C'est-à-dire ça couvre un peu plus de 4 ans au total. Hein. Voilà. Et puis il y a les deux intervenants en question dont nous parlions, c'est-à-dire Verlaine, qui sauve en quelque sorte quelques textes que nous n'aurions pas sans lui. On n'aurait pas les Assis, on n'aurait pas le bateau ivre, on n'aurait pas les premières communions, parce que c'est des transcriptions de Verlaine. Et puis il y a l'auxiliaire qu'est Germain Nouveau, qui aide à recopier de poèmes, et voilà, qui intervient dans la transcription des illuminations comme recueil, comme projet de recueil. Je pense que dans la totalité, il s'agit presque toujours de transcription. C'est-à-dire que Rimbaud se recopiait, signait, soignait son écriture. Tout est lisible, hein, d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il y ait une difficulté à lire l'écriture de Rimbaud comme celle
de Verlaine. Non, Denis Lavant feuilletait tout à l'heure et trouvait que tout était extrêmement lisible, même si la graphie change effectivement avec le temps.
Il y a quelques manuscrits qui sont un petit peu plus travaillés. Je crois qu'il y a un manuscrit, je me souviens bien, de Aux Saisons au Château, où il y a des ratures, où il y a des petits compléments comme ça, des interventions de la plume qui ne semblent pas permettre de dire qu'il s'agit d'une transcription. Mais la plupart des autres, par cycle d'ailleurs, ce sont des poèmes transcrits, recopiés, avec parfois plusieurs versions.
Alors, presque tout y est, à l'exception des premiers poèmes en latin, hein,
virtuose
du tout jeune garçon. Oui, évidemment, on n'a pas les manuscrits, mais vous aviez plaidé pourtant pour leur édition en Pléiade, hein, comme faisant partie intégrante de l'œuvre, qui sont des vers un peu engoncés. Mais qu'est-ce qui en fait véritablement d'ailleurs l'intérêt? Qu'est-ce que ces premiers poèmes en latin, très jeune Rimbaud, peuvent préfigurer?
Mais c'est de la poésie, c'est pas parce que c'est en latin. C'est de la poésie. Et même le premier poème connu, donc il a 14 ans, hein, 14 ans et demi, il est très 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 jeune. Hein. Le début, c'est « Vers Erat, c'était le printemps », et il raconte l'école buissonnière qui s'en va. Et il raconte qu'Apollon lui apparaît et lui dit « Tout va, Thès, Eris, toi, tu seras poète ». Bon, c'est pas rien du tout, ça, quand même, à 14 ans. Il faut le lire.
Je trouve une traduction, je parle assez mal de latin.
Si vous avez encore un peu de latin dans la tête, ce n'est pas du latin très difficile, mais enfin, c'est traduit. La Pléiade le traduit quand même, on donne les deux textes. Je n'allais pas censurer le poète, parce qu'il a 14 ans et parce qu'il écrit en latin. Et je crois que l'arrière-pensée contre le latin, c'est qu'il vient de l'école. Mais beaucoup de choses viennent de l'école.
Là aussi, d'ailleurs, hein, dans cet ouvrage-là, puisqu'il y a la lettre, qui est une sorte d'exercice de style, de discours français.
De Charles d'Orléans à Louis XI pour sauver Villon, oui, c'est ça, voilà, oui. C'est plus que l'école dans le cas de Rimbaud, c'est-à-dire la performance scolaire chez lui est déjà à la trace du premier génie, bien sûr.
Alors, c'est une écriture de jeune garçon, hein, il a 15 ans en 1870, 15 ou 16 ans, hein, lorsqu'il écrit Sensation ou Le bateau ivre. L'écriture, au début, est assez ample, assez ornementée. D'ailleurs, il signe d'un très grand Arthur Rimbaud avec moult ornements. Et puis, au fil des feuillets, hein, même si on ne peut pas parler de progression continue, la graphie change de mouvement, change d'échelle, hein, surtout, puisque les tracés se font plus petits. La signature elle-même se neutralise un peu, d'une certaine façon. Et puis, il y a des changements aussi jusque dans l'occupation de la page. En jetant un œil, disons, global sur ces manuscrits, parce qu'évidemment, on n'a pas le temps d'entrer dans l'infini détail, un œil visuel, donc, qu'est-ce que ces changements de graphie racontent?
Et les premiers manuscrits de Rimbaud, ils sont calligraphiés, il écrit comme on lui a appris à écrire, on apprenait à écrire, hein, à former les lettres, à faire les jambages, etc., tout au début de l'école. Il écrit encore d'une manière scolaire, mais il met, comme vous disiez, des fioritures, c'est-à-dire il y a une petite imagination qui va vers le jambage, vers le petit dessin, en particulier pour les lettres majuscules. Donc une fantaisie apparaît dans l'écriture. Et je dirais que de plus en plus, il perd à la fois l'héritage scolaire de la graphie, l'apprentissage et à l'école, et ce désir de fantaisie pour une écriture plus régulière et plus normalisée.
Est-ce qu'on peut éventuellement repérer un changement de graphie au moment du choix de la prose, ou en tout cas du passage à la prose?
Je ne crois pas. Il me semble qu'il se passe juste avant 72. Donc la dernière période en vers de Rimbaud, c'est le printemps et l'été 72, très très probablement. Et je pense que la graphie maîtrisée, mûrie, est très très sobre aussi, sans plus d'effet, au point qu'elle élimine même parallèlement la ponctuation. Le fait de la normalisation de la graphie et de la perte de la ponctuation, puisque il y a des transcriptions des poèmes de 72 qui ne sont pas ponctués, n'est-ce pas? Donc c'est pas Apollinaire qui a découvert ça, c'est Rimbaud. Hein.
Denis Lavant, vous avez jeté un coup d'œil.
Oui. J'ai cru entendre que, en tout cas à une époque, Rimbaud composait ses poèmes en marchant. C'est-à-dire qu'il les avait déjà de tête et qu'il les recopiait ensuite. Est-ce que c'est une affabulation?
C'est lui qui le dit dans Ma Bohème, petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Oui. Et il y a, traditionnellement, dans la poésie, vous vous souvenez qu'on appelait pied l'unité qui correspond à la syllabe, uh-huh, n'est-ce pas,
oui,
de la poésie. Hein. Oui. On disait autant de pieds dans un verre, maintenant on dit autant de syllabes.
Pieds.
Voilà, c'est ça, voilà, 12 pieds. Voilà. Ben, je crois que c'est ça, Rimbaud, c'est-à-dire la marche est pratiquement une expression physique de la poésie avant qu'on y mette des syllabes et des mots.
Oui.
Et en même temps, pratiquement, mais d'autres poètes ont dit ça, Baudelaire a dit ça un tout petit peu aussi, hein, c'est-à-dire qu'en marchant, il trouve des rimes, il trouve des syllabes, il trouve des mots.
Oui, oui, non, mais c'est pas rien, c'est-à-dire que
c'est
le poème, le corps du poème existe avant qu'il soit inscrit sur le papier.
C'est ça, et le rythme et l'analogie, avec, on parlait du clown répondant du poète, le petit pousset là, du conte est aussi un répondant du poète, c'est-à-dire il marche, et en marchant, il rime déjà, il met des mots, oui.
Denis Lavant, est-ce que vous voudriez bien nous faire une petite lecture?
Je
vous oblige. Hein.
La dernière période.
Printemps 72, hein, pour être
précis. Printemps 72.
Là, je ne sais pas si les dates figurent.
Mais il est dans un état, votre bouquin. C'est
pardon,
pire
c'est
que
le
il
mien.
A été
vous
trop
l'avez
lu,
détruit, pire que les miens.
Vous l'avez trop lu.
Oisive jeunesse, à tout asservie, par délicatesse, j'ai perdu ma vie. Ah, que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Je me suis dit, laisse, et qu'on ne te voie, et sans la promesse de plus haute joie, que rien ne t'arrête, auguste retraite. J'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie. Craintes et souffrances aux cieux sont parties, et la soif malsaine obscurcit mes veines. Voilà un petit extrait. Et ça me parle pas mal, ouais, déjà.
Je vous remercie. André Guyot, ce sont les derniers vers hein, qui ont votre préférence, hein, ceux qui sont composés, il faut être précis, du printemps à l'été 72. Hein,
pour peu qu'on puisse être précis, hein, il n'y a pas plus d'absolue certitude, mais il se trouve qu'il y a des dates sur quelques-uns d'entre eux, mai 72,
il en donne quelques-unes,
oui, juin 72, juillet, il y a un juillet tout court qui est probablement juillet 72 aussi, oui.
Alors je sais qu'il y a en particulier Estelle Almée, qui devait figurer, je crois, dans Une saison en enfer, qui l'envisageait en tout cas, je vous laisse le lire, et puis ensuite je vous poserai quand même une petite question.
Je le trouve dans votre édition, oui, c'est un poème que je trouve magnifique, mais avant de le lire, parce qu'on parlait tout à l'heure de la duplicité de Rimbaud, qui a l'art parfois de cacher le sens ou de ne pas dire de quoi il s'agit. De ne pas dire de quoi il s'agit, plutôt. Cacher le sens, c'est autre chose. De ne pas nommer l'objet. De ne pas mettre de titre, par exemple. Et est-elle Almée, elle, on se demande, elle, qui c'est? C'est la lune. Donc c'est un poème paysagiste qui montre le moment où la lune disparaît et fait place à la lumière du jour. C'est le moment qui précède l'aube. Il y a un poème qui s'appelle « Aube », qui est le moment qui suit. « Est-elle Almée ?» C'est la fin du règne de la lune dans le ciel. Almée, une Almée, c'est ce que c'est. C'est une danseuse orientale hein, qui apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. Et c'est ce que fait la lune à la fin de son règne dans la nuit. Je lis. « Est-elle Almée ? Aux premières heures bleues, se détruira-t-elle comme les fleurs feu ?» Devant la splendide étendue où l'on sente souffler la ville énormément florissante. C'est trop beau, mais c'est nécessaire. Pour la pêcheuse et la chanson du corsaire, et aussi puisque les derniers masques crurent encore aux fêtes de nuit sur la mer pure. Juillet 72, justement, voilà.
Il m'avait échappé, celui-ci.
Est-elle Almée?
Hein? Oui, je ne m'avais pas. Les poèmes aussi.
De Catherine. Il est vraiment glissé, glissé entre deux dans l'édition.
Je l'ai effleuré, mais je ne m'étais pas penché dessus. Mmh. Et comme vous me parlez de la lune, forcément, ça retentit, vu que Auguste.
Bien sûr, oui.
Il est tendu vers une lune hypothétique.
Oui. Ouais, ouais,
ouais. André Guyot, peut-être juste une dernière question plus personnelle. Naître à Charleroi, d'un père qui a dirigé, je crois, le journal de Charleroi, auquel Rimbaud avait proposé une collaboration en octobre 70. Hein, ça, c'était lors de sa seconde fugue, je crois. Et puis passer devant l'immeuble qui avait hébergé le bistrot dont parle Rimbaud, hein, la Maison Verte. Est-ce que ça fait de vous un rimbaldien particulier?
Oh, je ne crois pas. On a tous des raisons, bonnes ou mauvaises, hein, de s'intéresser à lui. Ça, c'est un petit élément biographique qui, de recoupement, je dirais. Mais puisque vous évoquez Charleroi, les passages de Rimbaud, il y en a eu plusieurs, mais surtout un où il proposait ses services, en effet, de journaliste. Il voulait gagner sa vie. Il était encore collégien. Et il avait connu au collège le fils du patron du journal Charleroi. Je suis triste hein, qu'on ait détruit l'Auberge Verte il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. Elle existait encore, c'était un beau bâtiment, on aurait pu en faire quelque chose de magnifique, mais on l'a rasé, voilà.
Quelles pourraient être les mauvaises raisons de s'intéresser à Rimbaud, pour reprendre vos termes? C'est pas moi qui l'ai dit.
Vous croyez qu'il y en a?
Bah, je ne sais pas, c'est vous qui l'avez dit, qu'on a tous, qu'on a tous des bonnes et de mauvaises raisons de s'intéresser à Rimbaud.
Disons qu'il y a... le vrai et le faux. Il y a des légendes, il y a un mythe, dit-on parfois. Il y a une image obsédante qui peut, dans certains cas, faire oublier l'œuvre, l'écrit, la poésie, pour se laisser emporter par une image un peu cliché, quand même, qui est celle d'un adolescent représenté par Étienne Carjat, le grand photographe, ou bien d'un explorateur aventurier dans la corne de l'Afrique. Tout ça, ça a la marque du destin, ça a sa vérité. Mais ça déporte, me semble-t-il. Et moi, ce à quoi je suis attaché, c'est à la poésie.
André Guyot, Denis Lavant, merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission, ou presque, hein, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, excellent après-midi à vous, à toutes et à tous.
Mais je voulais vous poser encore une question, ça tombe bien.
Oui, oui, moi aussi d'ailleurs. Dites-moi.
Sur la voix, justement, vous pensez que vous, la poésie doit être lue à haute voix, une transmission par le son très forte, sonore?
Je ne pense pas que ça soit... C'est pas une pensée absolue. Non. Pour moi, c'est nécessaire.
Oui.
Et ça, je ne comprends jamais mieux un poème que quand je le lis à haute voix.
Oui, oui.
Ils prennent position aussi dans mon quotidien, dans ma vie, parce que je les ai mis dans l'espace sonore.
Oui.
Et donc, ils retentissent à mes oreilles. Non, parce que c'est pas une déformation de comédien.
Je posais la question parce que moi, c'est le contraire.
Oui, oui, j'entends bien.
J'ai besoin de le murmurer, de l'entendre intérieurement, de ne pas... Parce que les syllabes résonnent intérieurement.
Oui, mais le dire à haute voix, ça veut pas dire que ça... Que non, ça se retentit intérieurement,
non,
aussi.
Oh, bien sûr.
Et si vous voulez, il n'y a rien de tel, parce que moi, il y a quand même... Dans la poésie, je sais pas s'il est reconnu comme poète, mais en tout cas, moi, je l'entends comme tel, c'est Bobby Lapointe.
Oui.
Qui fait beaucoup de jeux de mots. Mmh. Et les jeux de mots, ils prennent vraiment toute leur saveur. On peut les décrypter par l'oreille. Mais moi, j'ai besoin d'être dans un rapport mécanique au monde.
Oui, oui.
Et donc, de proférer, poser. Moi, je me dis, pour moi-même, même en marchant dans la rue, des poèmes, quand ça me vient. Parce qu'il y en a qui, hop, qui résurgent, et j'en ai quelques-uns, comme ça, des très anciens, des plus récents, et je me les dis en marchant, et ça m'accompagne.
Parce que c'est à quoi je pensais aussi, à propos de ce débat, hein, c'est que il me semble que dans la poésie de Rimbaud, en particulier dans Une saison en enfer, il y a l'appel à toutes les voix. C'est-à-dire, on peut très bien, d'ailleurs, une distribution des voix, et on peut très bien hurler certains moments, les vociférer, oui, oui, les proférer, etc., et d'autres les ramener à une sorte de presque de silence.
Sans doute.
Voilà,
oui, oui,
il y a murmure. Tout,
mais voilà. C'est comme...
C'est très théâtral, d'ailleurs.
C'est ce que me suggère la voix d'Artaud aussi.
Oui, oui.
Il peut passer par tous les registres.
Oui.
Et si vous voulez, moi je me suis fait un énorme plaisir une fois à déclamer dans le Luberon, où j'étais avec mon frère.
Tout seul.
On descendait d'une montagne et d'humour nègre et à déclamer pour lui, pour moi, pour la nature, soleil et chair.
Oui.
Et c'était épatant. C'était un moment unique, quoi.
Alors, la Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, la technique, Célia Dufour. Et comme chaque semaine, Thierry Beauchamp pour la préparation et François Connac pour la réalisation. Vous trouverez toutes les actualités de Denis Lavant et André Guyot sur le site de l'émission. à réécouter ou podcaster sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction. Mais tout de suite, c'est l'heure, enfin, de la méthode scientifique par Nicolas Martin.